Trouver le psaume 146, ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver. Généralement, tout le monde arrive à trouver les psaumes. Il y a que 150 chapitres dans les, il y a 150 chapitres dans les psaumes. Donc, vous arrivez vers la fin, vous retournez en arrière un peu, vous aurez le 146. Comme il n'est pas très grand, on va lire ce chapitre en entier pour ensuite revenir au verset qui nous intéresse pour ce matin. Le psaume 146, verset 1er, nous dit « Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Bon, là on en revient au... Je vais relire les deux versets qui vont nous intéresser pour ce matin. En fait, c'est la dernière phrase du verset 7 et le verset 8 qui nous dit « L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. » Après, on pourrait continuer, il donne encore une fois une autre définition de qui l'Éternel est. Il dit « L'Éternel protège les étrangers, etc. » Il continue. On n'a pas le temps de tout voir, justement. Il y a beaucoup trop. Mais vous savez, l'homme, peu importe qui il est, l'homme a toujours... Il aura toujours des besoins de l'aide d'une autre personne dans sa vie. Personne n'est autosuffisant. Personne ne peut tout faire ou il n'a jamais besoin de qui que ce soit. Qu'il soit riche, qu'il soit le plus intelligent, le plus instruit, le plus célèbre. Peu importe, l'homme a toujours besoin de quelqu'un d'autre, soit pour le conseiller, pour l'aider dans un domaine ou dans un autre. Si ce n'est rien d'autre, rien que dans le domaine de la santé. Il aura toujours besoin des conseils d'un médecin, d'un docteur. S'il est lui-même docteur, il aura quand même besoin d'un diagnostic d'un autre docteur ou d'un soin d'un autre. Il va, peu importe à quel point il est talentueux, un docteur ne va pas pouvoir faire une auto-chirurgie du cœur ouvert. Tout le monde aura besoin de quelqu'un d'autre pour l'aider de temps en temps. L'avocat aura besoin d'un aide d'un autre avocat ou d'un comptable, etc. La liste n'en finit pas. Mais on sait également que quand une personne a besoin de l'aide d'une autre personne, une chose qui va beaucoup aider la personne à accepter l'aide de l'autre, c'est si elle connaît personnellement cette autre personne. C'est pas un inconnu. Elle connaît son caractère et elle connaît surtout ses capacités. Si en plus les deux personnes se connaissent depuis longtemps et ils sont devenus amis, alors combien il est facile pour la personne d'accepter l'aide de son ami. Et il n'est pas étonnant donc pour moi de voir Dieu utiliser sa parole pour nous aider à mieux le connaître. De toutes les personnes, c'est lui qui sait combien nous avons besoin de lui. Le plus que nous voyons et comprenons qui Dieu est, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il aime faire, ainsi de voir ce que Dieu veut pour nous, qu'il désire être notre ami, pas juste ce Dieu qui règne sur ce trône à distance, combien ça devrait nous aider à venir à lui avec facilité, avec nos problèmes, nos soucis, nos fardeaux, nos besoins. Si en plus, je connais Dieu depuis longtemps, j'ai accepté le salut que Dieu offre depuis très longtemps et je suis sauvé depuis longtemps, le plus que je vois les vérités de la parole de Dieu être bien plus que des vérités écrites, mais je peux voir ces mêmes vérités accomplies dans ma vie personnelle. Je peux voir ce que Dieu écrit dans sa parole, mais je peux également voir comment il m'a soutenu, comment il m'a réconforté, comment il m'a consolé, comment il m'a aidé pendant ce moment de peine, ou comment il m'a rempli de paix à d'autres moments où, si ça n'en tenait qu'à moi, j'aurais paniqué. Ce ne sont plus des vérités abstraites, ce sont des vérités personnelles. Et le plus qu'on apprend et qu'on comprend qui Dieu est. Parce que c'est bien plus qu'une simple connaissance de sa personne. le plus que nous réalisons que on ne vient pas devant Dieu avec nos prières en vain. Ce n'est pas « je prie et j'espère ». Le plus que je connais qui il est, le plus que je peux prier et je sais. Et ce ne sera jamais une question de « est-ce que Dieu est capable ou non ?» Mais le plus que nous sommes proches du Seigneur, plus facile ça va être de lui faire confiance et de venir avec lui avec une grande facilité pour toute chose. Pas juste pour les petites que j'ai appris à lui faire confiance, mais même les grandes que j'ai appris à lui donner la même confiance. Et que pour lui, il n'y a pas de taille. La taille, elle est que pour moi, que si ce besoin est grand ou petit. Mais que pour lui, toutes choses sont simples. Au verset 5 de notre texte, il dit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. » Et à partir de rien que là, on pourrait faire toute une prédication sur ce verset, n'est-ce pas? Mais ensuite, les versets 6 à 10, donc le reste du chapitre, nous donnent toutes les raisons de pourquoi nous sommes heureux de placer notre confiance, notre espérance en l'Éternel. Qu'on ne sera jamais déçu, que Dieu ne faillira jamais, qu'on ne regrettera jamais de lui avoir fait confiance. On n'a pas le temps de voir toutes les choses que ces cinq versets, hein, le verset 6 à 10, nous enseignent. On n'a même pas le temps de voir en détail ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce matin. Mais il faut que je rappelle aussi ce qui devrait être une évidence, mais que ce psaume commence et termine avec exactement les mêmes paroles. Louez l'Éternel. Il commence avec louer l'Éternel, il le répète au milieu à plusieurs reprises, mais il termine également avec louer l'Éternel. Et quand il dit cela, ce n'est pas une question, ce n'est pas quelque chose à débattre, c'est un fait que Dieu mérite d'être loué, que Dieu mérite d'être adoré, que Dieu mérite d'être glorifié. Tous les versets qui se trouvent entre ces deux déclarations ne font que renforcer l'évidence que nous devons louer l'Éternel en tout temps, en tout lieu, pour toute chose, ou je dirais malgré toute chose. Parce que même quand nous sommes en peine, même physique, ou mentale, ou émotionnelle, ou autre, nous n'avons pas d'excuse de ne pas louer l'Éternel. Notre état présent ne change pas qui Dieu est. Et Dieu mérite que nous le louions tous les jours, sans exception. Ah, mais aujourd'hui, je passe par une mauvaise journée, ou là, c'est catastrophe après catastrophe. Oui, mais ça ne change pas le fait que Dieu mérite d'être loué. Ça va nous rendre la tâche plus difficile de le faire, mais ça ne change pas le fait que Dieu mérite d'être loué. Et de ne pas lui dire, aujourd'hui Seigneur, je ne vais pas te louer parce que ça va mal. La louange qui est due à Dieu n'est pas influencée par mes circonstances présentes. Et vous serez peut-être étonné de voir comment le simple fait de louer Dieu quand tout va mal vous fera le plus grand bien. Que c'est justement parce que vous avez des difficultés émotionnelles ou autres, et que vous choisissez de « Seigneur, je ne vais même pas te dire en ce moment la peine que j'ai, je te l'ai déjà dit pendant la moitié de la journée, mais là je vais prendre 5 minutes juste pour te louer. » Et vous serez surpris de voir à quel point juste prendre le temps de louer l'Éternel va vous encourager, vous aider à changer votre perspective, changer votre façon de penser, sans changer justement ce fardeau qui vous pèse. Dieu n'a encore rien fait. C'est vous qui avez choisi. Je choisis de louer l'Éternel parce qu'il le mérite, peu importe ce par quoi je passe. Donc avec cette vérité en tête, regardons ce que Dieu dit de lui-même. Apprenons ce que nous aurons toujours raison de louer Dieu pour chacune de ces choses. Même si nous sommes en train de passer par un moment difficile. La première chose, la dernière phrase de ce verset 7 nous dit « L'Éternel délivre les captifs », n'est-ce pas? Bon, la première chose qu'on pense, quand on entend cela, en tout cas c'était mon cas, c'est la délivrance d'Israël de l'Égypte. Ouais, on pense toujours Israël, captif, etc. Bon, c'est pas le seul moment, il est également avec Babylone, etc. Mais, et c'est vrai que l'Éternel délivre les captifs peut faire référence à cela, mais pas que. Nous voyons à travers l'Ancien Testament comment Dieu a délivré les captifs encore et encore et encore, allant de Joseph au peuple d'Israël, jusqu'au Nouveau Testament, où nous voyons Dieu continuer à délivrer ceux qui étaient en captivité, ceux qui étaient emprisonnés, Paul et Silas, et j'en passe. Mais il me semble que quand on continue à lire les Écritures, que Dieu ne délivre pas seulement les captifs d'une prison physique. Je crois plutôt que le plus qu'on connaît Dieu, justement, on avait commencé avec ça, le fait qu'on doit apprendre à qui il est, et Dieu est en train de donner à travers ce chapitre des versets pour nous aider à comprendre justement qui il est. Il délivre les captifs. Le plus qu'on connaît Dieu, le plus qu'on voit que Dieu aime délivrer sa création de la captivité du péché et autres prisons que parfois on se crée nous-mêmes dans notre vie. Par exemple, de la captivité de nos erreurs passées. Combien de chrétiens se créent leur propre prison parce qu'ils ont du mal à lâcher prise du passé. Et certains chrétiens, certaines personnes, même chrétiennes, restent captifs des erreurs qu'eux, ils ont commises dans le passé. Même si ce sont des erreurs qu'ils ont confessées. Mais ça revient à les hanter de temps en temps. Ils passent une bonne journée, voilà que pour une raison ou une autre, quelque chose leur fait penser à cette erreur qu'ils ont commise, peut-être parfois il y a quelques mois, parfois il y a quelques années, et c'est comme si c'était arrivé hier. Et ça les alourdit, ça les rabaisse, ça les attriste. Mais ce souvenir, étant une erreur qu'ils ont commise, n'est pas un bon souvenir, et ça change donc l'attitude qu'ils avaient. Et ils ont maintenant l'esprit abattu, négatif, alors que c'était quelque chose qu'ils avaient confessé. Peut-être que ce n'est peut-être même pas un tort qu'eux, ils ont commis. Peut-être est-ce que c'est le souvenir d'un tort qu'on a commis envers eux. Et un ami que vous pensiez être fidèle, qui s'est retourné contre vous et vous a fait du mal. Et pour une raison ou une autre, le nom de cette personne est revenu ou quelque chose vous a fait penser à ce moment-là. Vous pensiez que c'était dans le passé, mais voilà que le souvenir ressurgit et vous accable de nouveau. Vous rend captif une fois de plus, comme si c'était arrivé le jour même. L'Éternel délivre encore aujourd'hui ses enfants de la captivité. Si nous sommes encore emprisonnés par ces souvenirs, ces expériences du passé, c'est certainement dû au fait qu'on a dû refuser de prendre à cœur les conseils et les promesses que Dieu nous donne. La faute ne vient pas de Dieu qui, lui, est incapable de nous délivrer de ses pensées, mais que nous avons refusé la vérité qui libère. Vous connaissez peut-être le passage en Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et la vérité vous affranchira. Dit, ce mot « affranchira », c'est le mot grec qui veut littéralement dire « libérer ou rendre libre. » Mais quelle est la clé dans ce verset de Jean? Le verset juste avant, il a dit « Si vous demeurez dans ma parole. » Ça, c'est le conditionnel. « Si vous demeurez dans ma parole. » Pas si vous connaissez seulement. Et pas seulement si vous acceptez comme étant vrai. Mais si vous demeurez. Ce mot « demeurer » veut littéralement dire « de rester dans ». Ça fait référence à un lieu qu'on pourrait également traduire par « si vous continuez à vivre dans la parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. » Rendra libre, n'est-ce pas, toute l'idée de libérer celui qui est captif. On est libre de quoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être libéré si on n'est pas emprisonné par l'erreur? De la même manière qu'on utilise ce terme pour parler de notre maison parfois, de demeurer. Il demeure où, lui? Ici, nous avons cette même idée de demeurer, de vivre dans la parole de Dieu. Un chrétien qui reste captif de son passé n'est pas un chrétien qui demeure ou qui continue dans la parole. Il ne l'a pas acceptée pour la mettre en pratique par la foi, se soumettant à la volonté de Dieu, plaçant en lui toute sa confiance. S'il le faisait, il connaîtrait la vérité. Il saurait ce que Dieu dit dans sa parole, il l'acceptera et la vérité l'affranchira, le rendra libre de son passé, que ce soit des erreurs de sa part ou des offenses qu'on lui a causées. S'il demeure dans la parole, il nous dit, l'Éternel délivrera le captif. Mais peut-être que le chrétien n'est pas juste prisonnier de son passé, peut-être est-il captif de ses pensées aussi. Là, on fait référence au passage qu'on a dit tout à l'heure en Ésaïe 55. Les versets 6 à 9, on va pas lire tout le passage, mais ces versets-là suffiront. C'est « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, et notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et quand on étudie ce passage, on comprend que ce au-dessus ne parle pas de distance. Il dit, ils sont tellement plus grands, ils sont meilleurs, ils sont parfaits, alors que nos pensées ne peuvent être que imprimées de notre nature pécheresse aussi. On ne peut pas, comme d'autres passages dans le Nouveau Testament disent, notre regard est flouté, c'est comme dans un miroir, mais... Ou un autre passage qui le dit peut-être plus clairement, en psaume 94, 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. » Qui n'a jamais connu cela? Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Mais seulement si on demeure dans sa parole. Seulement si on accepte que ses pensées sont meilleures que mes pensées, que sa voix est meilleure que ma voix, ce que moi j'aurais voulu et que Dieu a voulu autrement, que son autrement est meilleur que ce que moi j'aurais voulu. Que Dieu n'a jamais tort. Et que sa volonté n'est jamais en dessous de la mienne, mais toujours au-dessus, meilleure que la mienne. Combien de chrétiens laissent encore leurs pensées dominer sur eux au lieu de laisser la parole de Dieu, la vérité, régner sur leur cœur? Ils savent ce que Dieu dit, mais leurs pensées disent « mais moi ». Justement, il faut changer le « mais moi » avec « mais Dieu ». Parce que la pensée de Dieu est meilleure que le « moi ». N'avons-nous pas déjà eu des pensées qui remettaient en doute même la parole de Dieu? On ne le dirait pas ouvertement. Hein, on va pas. Aujourd'hui, comme témoignage, j'ai douté de ce que Dieu dit dans sa parole. On ne va pas dire ça. Mais dans la pratique, ne l'avons-nous pas fait à un certain moment? Vous savez, ces moments où vous savez ce que Dieu dit dans sa parole, mais vous ne l'avez peut-être pas dit ouvertement en parole, mais vos pensées, c'était « oui, mais, ce mais » automatiquement montre de la réticence envers la vérité de la parole de Dieu. Comment voulons-nous que la vérité nous libère, nous affranchit, si on met en doute, si on rajoute un « mais » là où Dieu donne une affirmation? Ou « je sais que Dieu dit, mais si jamais ceci arrivait, pourquoi est-ce qu'une condition hypothétique changerait ce que Dieu déclare dans sa parole? Ou encore, je sais que Dieu promet, mais j'ai besoin de savoir comment, ou quand, ou pourquoi. Ben moi je dis, pourquoi est-ce que tu as besoin de savoir quand, pourquoi, comment? Si Dieu promet, pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant? À cause de mon incrédulité, la vérité vous affranchira. Si mes pensées vont à l'encontre, c'est normal que je reste captif de mes pensées dans ce cas-là. Autant de questions et de réflexions qui remplissent nos pensées au lieu d'avoir un cœur encouragé par les promesses de Dieu ou d'être réconforté par la présence de Dieu. On choisit, on n'aime peut-être pas l'admettre, on ne le voit pas de cette façon, mais on choisit de rester captif de nos pensées qui sont remplies de questions et de doutes et d'incertitudes là où Dieu voulait établir une foi ferme, une confiance inébranlable en sa personne. Il nous dit, il nous donne juste cette déclaration. Il dit rien avec pour expliquer. Il dit, l'Éternel délivre les captifs. Ceci implique pour moi n'importe quel captif que Dieu désire délivrer. Il n'y a pas le moindre prisonnier que Dieu ne puisse délivrer. Même quand nous nous rendons captifs par nos propres pensées, remplies de doutes, d'incrédulité et des pensées qui mettent des questions ou là où Dieu a mis des affirmations, Dieu peut m'en délivrer. Il est l'Éternel qui délivre. Ce n'est pas l'Éternel qui essaye de délivrer. Ce n'est pas l'Éternel qui désire. C'est l'Éternel délivre. Il le fait. Et vous savez, quand on ouvre les portes de la prison, hein, là on a fêté il n'y a pas longtemps la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'une des choses les plus touchantes que personne, je pense, ne peut rester insensible, c'est quand on voit les images des portes des camps de concentration qui s'ouvrent enfin, et que ces personnes qui souffraient de choses qu'on ne peut même, on a du mal encore à imaginer aujourd'hui, sortir. Un peu comme, est-ce vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai que, est-ce qu'on est vraiment libre? Mais on se dirait, mais les portes sont ouvertes, s'il y en a qui décident de rester, il dit, mais ça va pas, mais c'est insensé. Pourquoi voudrais-tu rester? Et je me dis, mais combien de fois est-ce que Dieu fait cela avec nous? Il veut nous libérer de ce qui nous tient captifs. Il fait en sorte qu'il peut ouvrir ses portes et nous on dit, mais non, j'y crois pas. Je reste là parce que je suis pas sûr de ce qui se passe de l'autre côté. Là, notre incrédulité veut qu'on reste et Dieu dit, mais non, j'ai tout fait. Je suis l'Éternel qui délivre les captifs. Je veux te donner ma vérité la franchira, te rendra libre, mais prends-la pour ce qu'elle est. Accepte-la par la foi, à cause de qui je suis moi. Et on dit, oh, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus? Combien de chrétiens, malgré le fait d'être sauvés, malgré même d'avoir le Saint-Esprit en eux, restent captifs, même de certains péchés dans leur vie. Ils ont peut-être un péché spécifique qui est récurrent, qu'ils ont du mal à se débarrasser. Et ce péché les hante. Ils savent que c'est mal. Ils ont envie de s'en débarrasser, mais c'est une lutte contre laquelle ils se battent depuis peut-être même des années. Et ce péché ressurgit encore de temps en temps. Il leur serait facile de laisser leur pensée être submergée par ce péché et être vaincue par ce péché, se disant ce que tant d'autres ont dit avant eux, je n'y arriverai jamais, c'est trop dur, je ne suis pas assez fort, j'ai honte de moi, mais je ne sais plus comment faire pour m'en débarrasser. Ne croyez-vous pas que l'Éternel délivre les captifs? Crois-tu cela? Crois-tu que Dieu soit capable de t'aider de te débarrasser de ce péché qui est récurrent dans ta vie? Ce n'est pas à toi de te délivrer. C'est l'Éternel qui délivre les captifs. Et on entend cela, on dit, ouais, c'est vrai, il faut que je fasse plus d'efforts. Non, ce n'est pas toi qui dois te délivrer. Tu dois accepter la délivrance que Dieu offre. De la même manière qu'on a accepté le salut par la foi, ce n'est pas quelque chose que nous avons dû faire pour mériter notre salut, pour être délivré de cette condamnation éternelle à cause de notre péché. On a dû accepter ce que Christ a fait. De la même manière, après, quand Dieu veut continuer à nous libérer de ce qu'il voudrait nous rendre captifs, ce n'est pas à nous de dire c'est ma responsabilité. Non, c'est l'Éternel qui délivre les captifs. Je dois accepter la délivrance qu'il lui désire. Et comment je fais cela? On a vu les passages avant. Celui qui demeure dans sa parole, la vérité la franchira, le libérera. C'est Christ qui est mort pour tes péchés. C'est Christ qui te donne la victoire par son sang sur le péché. Alors continuez, continuons à faire confiance au Seigneur. Écoute et fais confiance au Saint-Esprit qui est en toi pour t'aider à te débarrasser de ton péché, à changer ta façon de penser, à changer tes habitudes, à changer même les choses que tu aimes, dans lesquelles tu te prends plaisir, mais que Dieu sait que tu dois t'en débarrasser parce que ces choses-là affectent également et influencent vers le péché. Quand Christ est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité 3 jours après pour nous apporter la victoire, pour nous délivrer de nos péchés, nous disons, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste de nous délivrer de notre nature pécheresse, mais de nous délivrer du pouvoir du péché dans notre vie. Il nous a sauvés pour que le péché ne puisse plus dominer dans notre vie. Mais crois-tu cela? Dieu nous l'enseigne à travers le Nouveau Testament maintes et maintes fois. Mais ce n'est pas la seule chose que Dieu dit de lui-même dans notre passage. Il dit dans ce verset 7, hein, l'Éternel délivre les captifs. Il dit rien d'autre, parce que c'est plus que suffisant. Crois-tu cela? Crois-tu que je puisse te délivrer, peu importe la chose qui est en train de te rendre prisonnier? Il continue, verset 8, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Encore une fois, nous voyons Dieu faire exactement cela, aussi bien physiquement, et on voit le faire cela d'une manière spirituellement à travers les Écritures. Quand je pense à cette image, j'essaie d'imaginer quelqu'un qui est né aveugle, comme on voit Christ redonner la vue en Jean chapitre 9 à cet homme qui est né aveugle. Et j'imagine la joie et les questions et l'émerveillement de cet homme qui voit pour la toute première fois de sa vie, d'abord une toute petite lumière, des ténèbres qu'il a toujours connues, juste un tout petit peu de clarté, puis avec la lumière, les yeux qui commencent à peut-être voir certaines couleurs, puis les pupilles s'ajustent avec le temps et il y a toujours un peu de flou, il commence à voir tout avec clarté. Et quand il voit tout avec clarté, il dit quelle joie immense, quelle sensation extrême il a dû ressentir, mais aussi quelle reconnaissance envers celui qui lui a redonné la vue, ou donné la vue plutôt. Mais ne pouvons-nous pas, sans vouloir faire de jeu de mots, mais est-ce que nous ne pouvons-nous pas voir la même chose dans le domaine spirituel? Dieu seul pouvait redonner la vue à cet homme né aveugle, et Dieu seul peut nous aider à comprendre les choses spirituelles. Nous qui sommes nés dans les ténèbres, nés avec le péché. L'obscurité ne peut pas éclaircir quoi que ce soit. Christ ne dit-il pas, je suis la lumière du monde? C'est en Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ne pouvez-vous pas vous rappeler de ces toutes premières fois où Dieu a commencé à parler à votre cœur? Vous étiez pécheur, comme tout le monde, dans les ténèbres. Il y avait un verset ou un témoignage, ou une manière ou une autre, une toute petite lumière, des ténèbres que vous avez l'habitude d'avoir, voilà une toute petite lueur qui vous fait réfléchir. De voir ensuite cette lueur grandir dans une lumière et voir ces premières couleurs, des vérités de la parole de Dieu qui vous étaient cachées jusqu'à maintenant. Et dire, ah, j'avais pas compris cela avant. De voir ensuite des vérités qui étaient floues devenir plus claires. Jusqu'au moment où vous avez pu voir et comprendre le salut avec clarté et accepter le salut que Dieu voulait vous offrir. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Ne sommes-nous pas tous aveugles spirituellement? Y a-t-il la moindre personne qui pense pouvoir comprendre qui Dieu est et comment être sauvé sans que ce soit l'Éternel qui lui ouvre les yeux, qui lui fasse comprendre les choses spirituelles? Jean chapitre 12, verset 46 nous dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est ce même mot demeurer dans la parole, afin que on ne continue pas à vivre dans les ténèbres. Je voudrais juste vous encourager, en vous disant, il n'y a pas de cœur trop dur ou de personne qu'on pourrait définir comme étant trop perdue, que Dieu ne puisse les éclairer. S'il y a la moindre personne ici qui n'est pas sauvée, Dieu peut vous éclairer, donner cette lumière dont vous avez besoin pour comprendre le salut qui vous offre. Si vous avez des personnes que vous aimez dans votre famille, comme on l'a prié tout à l'heure, qui ne sont pas sauvées, il n'y a pas de personne qui soit trop perdue, trop de ténèbres, que la lumière ne peut pas chasser et éclairer et rendre le salut clair pour cette personne. Que cela vous encourage de ne pas abandonner et de continuer à prier pour vos proches. La lumière chasse toujours les ténèbres, sans exception, toujours. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, et il continue dans ce verset 10 en disant, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Vous savez pourquoi il nous arrive d'être courbés? De quoi parle-t-il? Il fait référence à des personnes qui passent par des moments difficiles, voire même de douleur. On est en train de par rapport à la définition du mot lui-même. Ce sont des l'exemple tout simple, hein, quand on commence à avoir mal au ventre, oh, la première chose qu'on fait, on se tient le ventre et on commence à se courber. Et de par définition de ce mot courber, c'est exactement de cela qu'il fait référence. Les douleurs intenses qui fassent qu'on ne peut pas rester droit. On est obligé. Et le plus que la douleur est intense, ben, le plus qu'on se courbe, puis jusqu'au point où on doit se mettre à terre, on se met à genoux, on se met assis, on n'en peut plus. Et le poids parfois de nos problèmes, de nos responsabilités, de notre fardeau font en sorte que nous sommes courbés. L'Éternel enlève le poids qui nous écrase? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il n'a pas dit qu'il enlève ce qui nous fait mal. Il dit l'Éternel redresse. Redresse. C'est-à-dire, malgré la peine, malgré ce qui nous fait mal, malgré ce qui nous pèse et qui voudrait qu'on se courbe sur nous-mêmes, il nous donne la capacité de nous relever, de mettre droit, Pas parce qu'on est si fort, mais parce que notre confiance est dans l'Éternel et la force nous vient de l'Éternel. Parce qu'il nous arrive à se tenir droit, confiant, notre foi en lui est ferme. Seigneur, si ce n'est pas pour toi, je serai écrasé sous ce poids. Mais par ta grâce, tu me redresses. Tu m'arrives à faire face à mes responsabilités. Tu arrives à m'aider à ne pas être écrasé sous le poids de ce qui est en train de m'arriver, même une accumulation de difficultés, de problèmes et de déceptions. Se tenir debout avec foi, ayant confiance que Dieu nous aidera à ne pas être écrasé et de pouvoir continuer. Certains portent un poids qui est dû à la tristesse. Combien de fois est-ce qu'on rencontre cela? Une tristesse qu'ils pensent ne partira jamais. Ils ont du mal à même retrouver le sourire, la joie et la paix que Dieu met dans le cœur de l'homme. Peu importe ce qui a causé votre tristesse ou ce qui voudrait enlever la joie de votre salut, apprenons à tout remettre entre les pieds aux pieds de Dieu et entre ses mains. Déposer nos soucis, nos peines et nos déceptions entre ses mains, parce que lui seul va pouvoir nous redresser. Il ne va pas enlever les choses qui nous font cette peine, mais il va nous donner cette capacité de nous remettre debout, de nous redresser et ne pas être accablé. Lui seul peut nous redonner la joie et la paix et la satisfaction que vous désirez. J'ai vu des familles, et je connais des familles qui sont accablées par toutes sortes de difficultés, des difficultés que, si c'était moi, je ne sais pas comment je ferais face. Mais que ces familles, malgré ces accumulations de difficultés intenses, je n'ai pas le temps de donner toutes les spécifiques, les détails de pourquoi, mais je me demande comment ils font pour rester aussi positifs, joyeux, de ne jamais les entendre se plaindre de leur situation. Ah, ça ne veut pas dire qu'entre eux, ils n'en parlent pas. Mais le Seigneur les aide à se redresser pour montrer que leur confiance ne vient pas dans une situation, une circonstance qui change. Leur confiance vient dans un Dieu qui ne change pas. Pour le monde, ils diraient, ah, mais c'est une façade, ils font semblant devant les autres. Pour Dieu, c'est un résultat logique d'une personne qui place sa foi en lui. Pour le monde, il dit, ça ne peut pas être vrai parce qu'eux, ils ne se voient pas comment réagir de cette façon-là dans la même situation. Mais ce n'est pas parce qu'eux, ils ne comprennent pas que ce n'est pas vrai. L'Éternel redresse celui qui est courbé. Le mot redresser ici, que Dieu utilise entre passages, veut littéralement de faire lever. Et c'est un mot qui, quand utilisé dans le sens figuratif, veut également dire consoler et réconforter. Donc j'ai cette image d'une personne qui est à genoux, repliée sur elle-même, en train de pleurer, et Dieu vient, le relève, il le prend dans ses bras, il le serre, comme un parent envers son enfant dit, ça, tout ira bien, je suis là avec toi, mais ne reste pas à terre, reste pas à genoux, mets-toi debout, on va marcher le reste ensemble. Et l'Éternel redresse, nous relève et nous réconforte alors que sans lui, oui, on resterait courbé, on resterait effondré. Mais imaginez que Dieu se tient là, il veut nous relever pour nous serrer dans ses bras et que nous, on résiste. Non, c'est pas la peine. Oh, mais hein, quand les gens, ils ont mal, quand ils souffrent, même envers les personnes qu'ils savent normalement leur veut du bien, parfois, ils leur parlent avec dureté, n'est-ce pas? Mais va-t'en! Je t'ai rien demandé. Et parfois, on fait ça envers Dieu. On a mal et on prie. Et Dieu vient pour répondre. Et on le rejette. Parce que Dieu, dans sa réponse, il ne nous donne pas la réponse que nous, on aurait voulu. La réponse que nous, on voulait, c'est qu'il nous enlève la souffrance. Je ne t'ai pas dit que je t'enlèverais. Je dis, je te redresserai. Je te donnerai la force de faire face. Fais-moi confiance. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Oui, mais je ne suis pas là pour te donner ce que tu veux, je suis là pour te donner ce que tu as besoin. La maturité, c'est de comprendre et d'accepter la différence. C'est celui qui est immature qui insiste à avoir ce que lui veut au lieu d'avoir ce qu'il a besoin. Je vois tellement d'exemples dans la Bible où Dieu a pris plaisir de redresser des personnes qui étaient courbées, abattues par la vie, peut-être même par le péché ou par les soucis. N'a-t-il pas redressé et donné espoir à ceux qui, justement, on a parlé tout à l'heure, hein, ceux qui pleuraient à la mort de Lazare? N'a-t-il pas pris le temps de les redresser, de les réconforter, de les encourager? N'a-t-il pas redressé, donné espoir avec la parole du parabole qu'on a avec le fils prodigue, que malgré le poids de son péché, du monde, de la déception, du regret qu'il a eu, il retourne enfin auprès de son père, il se courbe en soumission et avec honte, et on voit le père le redresser, le prendre dans ses bras. Faites bien attention quand vous lisez les Écritures, et voyez combien cette vérité revient sans cesse de différentes façons, de comment Dieu prend plaisir à redresser, réconforter celui qui est courbé, celui qui passe par les moments difficiles, bien plus que d'enlever ce qui a causé la peine. Je le vois redresser Moïse, je le vois redresser Joseph, Jérémie, Néhémie, Élie, Pierre, Étienne, Paul et Silas, etc. Quelle joie, quel encouragement, mais également quelle interpellation de voir que l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Si je suis encore courbé sous le poids de quoi que ce soit, c'est de ma faute. Ce n'est pas que Dieu n'ait pas envie de me redresser ou que Dieu ne soit pas capable de me redresser. C'est moi qui résiste à ce que Dieu voudrait faire dans ma vie, qui refuse la consolation qu'il veut donner, qui refuse la vérité qu'il veut me faire apprendre. Alors, on aurait pu faire une prédication sur chaque point, n'est-ce pas? Et dès qu'on parle de qui Dieu est et de ce qu'il fait, les leçons à en tirer sont infinies. Notre passage en psaume 146, on pourrait faire une prédication sur chaque verset. On terminera avec ce dernier le verset 8, « L'Éternel aime les justes ». Ce que je trouve intéressant, que le mot « aimer » ici n'est pas le mot « agapé », qui parle de cet amour inconditionnel. C'est le mot qui parle d'avoir de l'affection, de la même affection que nous avons pour un ami. Et le mot « juste » ici parle de la personne qui n'enfreint pas la loi, qui est juste. On pourrait également le traduire par « vertueux ». On ne devrait pas être étonné de voir dire que Dieu nous aime, qu'il prend en affection les personnes qui désire rester éloigné du mal et vivre selon la justice de Dieu. Psaume 84, versets 12 et 13 nous disent « Car l'Éternel, Dieu est un soleil et un bouclier, l'Éternel donne la grâce et la gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Et ce mot « marche », c'est une action continue, à ceux qui marchent continuellement dans l'intégrité. « Éternel des armées, heureux, l'homme qui se confie en toi. » Le fait que le mot « aime » ici parle d'affection, montre que Dieu est touché par notre volonté de lui être agréable. Ce n'est pas qu'il nous aime parce qu'il a choisi d'aimer le monde entier, mais en plus de cela, il prend plaisir en nous. Il aime nous voir vivre faisant des efforts de ne pas vouloir l'offenser lui. Nous savons que c'est le sang de Christ qui nous rend juste devant Dieu, n'est-ce pas? Alors quand Dieu voit l'homme accepter le sacrifice de Christ pour le salut de leur âme, pour ensuite montrer notre reconnaissance par une obéissance et une volonté de rester juste, de continuer à marcher dans l'intégrité, alors oui, l'Éternel prend plaisir et aime les justes. Je dois sauter les choses parce que j'ai déjà passé beaucoup plus le temps passé. Je reviens souvent sur cette vérité que Dieu désire avoir une communion avec nous. Pas seulement nous aider à avoir une connaissance, mais une communion avec ses enfants. J'ai entendu des personnes dire qu'il n'est pas possible pour un chrétien de savoir ce que Dieu veut tout le temps. Quand j'entends une personne dire cela, pour moi, ça en dit plus sur la personne qui dit cette déclaration que quoi que ce soit d'autre. Parce que ça me dit que cette personne ne doit pas avoir justement la communion que moi j'ai avec le Seigneur et que beaucoup d'autres ont avec le Seigneur. Cette personne est certainement sauvée, elle a des connaissances et à l'évidence elle ne connaît pas cette communion quotidienne d'avoir le Seigneur lui parler régulièrement, quotidiennement. Ah non, ce ne sera pas une voix audible, ça on le comprend bien, mais le plus proche sera votre communion avec Dieu, le plus facile il sera d'entendre justement ce que Dieu veut que vous fassiez, même ce que Dieu voudrait que vous disiez, jour après jour après jour. La voix du Saint-Esprit qui est en nous sera beaucoup plus facile à reconnaître. Pas de questions, pas d'hésitation. Comme on a partagé la semaine dernière, je suis la brebis qui entend et reconnaît avec facilité la voix de mon berger. Alors oui, Un pasteur, comme n'importe quel chrétien, devrait pouvoir savoir ce que Dieu veut qu'il fasse chaque jour, sans exception. Est-ce qu'il y a une journée où Dieu va me garder, m'empêcher de connaître sa volonté, ses pensées? Ben non. Les moments où le doute s'installe sera toujours parce que c'est le chrétien qui s'est éloigné de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors il faut qu'il confesse, se repente, se réconcilie, et la communion est restaurée, il entend et comprend de nouveau la volonté de Dieu. Dieu, de son côté, aime, prend plaisir à voir son enfant s'humilier, et surtout s'humilier assez pour être juste devant lui, pour pouvoir justement entendre sa voix et être guidé par lui. Si je ne suis pas juste, ce n'est jamais de la faute de Dieu, mais toujours de la mienne. Ce n'est jamais une question de « est-ce que je peux être juste ?» Dieu a tout fait pour que je le sois. L'Éternel aime les justes. C'est à moi, jour après jour, d'accepter de mettre Dieu en premier, d'accepter de confesser pour que Dieu puisse pardonner, purifier, rendre pur, juste, vertueux. 1 Jean chapitre 1, verset 3 nous dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Il parle bien de communion, pas juste de connaissance, pas juste de soumission. Une communion, c'est quelque chose qui est continu, jour après jour. Verset 5 de ce passage, 1 Jean. La nouvelle que nous vous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc il y a la condition de « j'ai une communion avec Dieu », et que nous marchons dans les ténèbres, nous prouvons que nous sommes menteurs. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Pratiquer la vérité, la même idée de demeurer dans la parole. Mais le tout est autour de la communion que j'ai avec Dieu. Cette communion, elle est accessible. Cette communion, elle est désirée par Dieu. Un chrétien qui me dit qu'un autre chrétien ne peut pas savoir ce que Dieu veut chaque jour, je suis désolé, mais tu as besoin d'avoir et d'apprendre ce que c'est que d'avoir une vraie communion avec Dieu dans ce cas-là. Il est facile de dire que nous avons une communion proche avec Dieu, mais à la fin, ce sont quand même nos actions, nos choix, notre pratique qui diront si notre communion avec Dieu est proche ou non. Si j'entends facilement sa volonté, et si je suis prêt à suivre sa volonté avec facilité aussi. Nous n'avons qu'effleuré ces quelques versets du psaume 146, n'est-ce pas? Où on n'a pas pu voir en détail chaque verset, encore moins même les détails les versets qu'on a vus. Mais l'Éternel délivre les captifs. Celui qui croit que Dieu ne parle que de la captivité physique ne connaît pas Dieu correctement. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. Celui qui croit que Dieu ne fait référence qu'à la vue physique reste lui-même aveugle à la vérité que Dieu voudrait nous enseigner. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Honnêtement, qui ne l'est pas de temps en temps? Mais on a ce réconfort qu'on n'est pas obligé de rester. Et que Dieu n'est pas là en train de nous juger avec la doigt pourquoi est-ce que tu es courbé, mais qui nous tend la main pour nous redresser. L'Éternel aime les justes. Dieu prend plaisir à voir et à avoir une communion proche avec ses enfants, mais une communion qui n'est pas possible quand nous laissons le péché dans notre vie rompre notre communion avec Dieu. Et à l'évidence, on n'a pas eu le temps de voir tous ces autres versets où il fait toujours référence à qui il est. Verset 6, il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Rien que cette dernière phrase, on pourrait faire une prédication de comment Dieu est fidèle. Verset 7, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. Verset 9, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Rien que ce verset du verset 10, cette phrase, l'Éternel règne éternellement. Comme il serait facile de faire toute une prédication rien que sur cette vérité-là. Je dirais juste gloire à Dieu de ce que l'Éternel a toujours régné, règne encore et régnera pour toujours. Gloire à Dieu de ce que c'est lui qui est en contrôle de toutes choses. Et ensuite, il dit, ton Dieu aussi, on subsiste d'âge en âge, loue l'Éternel. On l'a dit à l'introduction, on le dit maintenant à la conclusion. Le premier verset de ce chapitre et les dernières paroles de ce chapitre devraient être notre désir, notre volonté. Louer l'Éternel. Vous savez ce que ce mot louer veut dire? C'est un mot qui veut littéralement dire faire briller. Dans ce contexte, le nom de l'Éternel. Ou on peut également traduire par en faire tout un show, un spectacle. de la personne de qui on parle. Peut-être donc traduit par de vanter les mérites de la personne, des bienfaits de la personne. Et j'aime cette première définition de faire briller avec l'autre idée de faire tout un show, un spectacle. Ça me fait penser, vous savez, les projecteurs qu'on met sur en scène sur les personnes, où on est dans un spectacle, ils éteignent plus ou moins, ou atténuent beaucoup les lumières, où ça fait sombre partout. Puis, hop, il y a un spot là au milieu, un projecteur, un micro devant, et tout le monde est obligé de faire quoi? Le reste est obscurci, on se focalise sur cette lumière, et donc la personne qui se trouve dans ce projecteur. C'est ce que veut dire ce mot « louer l'Éternel ». Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous sommes, rende gloire à Dieu et retourne toutes les pensées, les cœurs, tout en revient à lui, qu'on n'attire pas les attentions sur nous. Mais c'est parce que moi, je suis rien. Ce qui est important, c'est l'Éternel que je sers. C'est lui qui fait toute la différence. Louez l'Éternel. Toutes les autres choses qui se trouvent entre ces deux premiers derniers versets nous donnent toutes les raisons de pourquoi on devrait le louer. Lui seul est digne de louange. Et honte de moi si je ne le fais pas. Louez l'Éternel. On va s'arrêter là, même si j'ai envie de continuer, mais